Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Eh ben c'est parti, on y va. Bonsoir à tous, après cette magnifique entrée en matière pour ceux qui peut-être étaient en direct, mais je ne crois pas, et ces réglages de notre nouvelle plateforme, nous sommes heureux de vous accueillir pour notre épisode 96. Bip !
Bip, ce sera le nom de l'émission en tout cas.
Oui, voilà, petit private joke parce qu'on a dû lancer un bip pour synchroniser nos enregistrements. Bip !
Bon, bonsoir à tous en tout cas. Bonsoir. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas ce que ça a donné au point de vue son l'épisode d'avant. On n'a pas eu de retour, donc c'est ni dans un sens ni dans l'autre. Donc j'attendrai bien des retours sur le son. En tout cas, les gars, ça va? Ouais.
Oui.
Oui, bien.
Ah,
toi aussi.
Bah ouais, bon, moi oui, mais j'étais pas très enthousiaste, donc on y va.
Allez, hop. Retour sur la dernière émission. Allez.
Un petit retour de Steph, on lui répondra en direct, il nous a proposé certaines choses sur Twitter, qui s'inquiète pas, on lui répondra, non ?
Oui, oui, tout à fait, il nous faut le temps de discuter alors qu'on a rarement le temps de se voir en plus.
C'est vrai, donc voilà, c'est mon seul retour, vous avez eu d'autres retours les gars, non ?
Okay. Oh bah sur le fait que l'émission a été un plaisir à monter, oui, on entre nous quoi.
Ouais, j'ai passé du bon temps mais.
Ouais. Non, bah, écoute, tu l'as voulu, hein, écoute maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Bon, allez, passer au sommet. Qu'est-ce qu'on a ce soir au menu?
Bon, allez-y.
Allez, on a du Framasoft, du robot et de la formation d'enseignants. Quelques outils en VR et de, je sais pas ce que c'est que Guillaume m'a proposé, du cartable, du décodeur du monde, un petit truc et astuce de ma part. Notre partie innovation, expérimentation sur un peu la diction aux écrans. Et on finira bien sûr par nos habituelles rubriques, ce que l'on fait en ce moment et pour parler d'autres choses. En tout cas, bien riche ce soir, je pense.
Super.
Et c'est parti.
C'est parti. Allez. Oui. Un peu plus d'entrain, les gars, là. Je vous sens un peu mou, là. Ouais. On est dedans, là. Allez.
Mais non, moi, je vous entends décaler. C'est super pénible. J'ai l'impression d'être à ton
niveau. Ah. Bref. C'est pour ça. Allez, actu, dans l'ordre du doc de l'émission, Seb, c'est toi, je pense.
Ouais, alors allons-y, pour un mot un peu barbare, c'est déframasoftiser Internet. J'ai eu beau m'entraîner, c'est pas évident à dire. Alors, derrière ce titre un peu étrange, on retrouve Framasoft. Framasoft, on en a parlé assez fréquemment, ici même. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une association, voilà, qui a pour but la promotion du logiciel libre. Et dans cette optique, ils avaient lancé une grande opération il y a quelques temps, je pense que ça se compte en années maintenant, sur l'idée était de dégoogliser, non, à rallonge, Internet. Donc offrir en définitive une solution alternative à celle qu'offrait notre cher géant Google, du style essayer d'offrir un drive alternatif, essayer d'offrir des solutions alternatives, sauf que dans leur esprit, ce n'était pas l'idée d'offrir un autre service identique à celui qu'offrait Google sur leur plateforme. Malheureusement, heureusement, voilà, un peu victime de leur succès comme ça ne va pas dans leur idéologie, que je respecte éminemment, ils ont décidé de fermer une bonne partie des services qu'ils avaient mis en place pour offrir cette alternative en libre, etc. Et là, sur leur site, on vous avait déjà conseillé d'y aller parce que vous aviez toute une série, par exemple, selon ce que vous vouliez faire, est-ce que vous vouliez communiquer entre vous, est-ce que vous vouliez faire, est-ce que vous aviez besoin d'un calendrier, est-ce que vous avez besoin du stockage, etc. Vous aviez toute une liste d'alternatives qu'ils avaient mis en place. Certaines étaient anecdotiques, d'autres ont été réservées parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir suivre au niveau logiciel. Je vais y arriver. Hein. Et donc, ils ont pris la décision donc, de mettre un calendrier qui précise à quelle date ils vont arrêter certains services. Ce sera progressif et toujours dans leur idée de ne pas faire comme les géants. Ils ne veulent pas devenir un géant du web et rester une petite structure. Ils vous proposent plutôt d'aller dans l'esprit des chatons. J'ai beaucoup aimé le nom, en fait, ce serait de, au lieu de tout concentrer dans une seule structure, ce serait de disséminer ce genre de services que l'on peut avoir chez Google, mais de les disséminer au travers de l'Internet, au lieu de faire un seul gros truc bien rassemblé. Voilà. Donc si vous étiez un fervent utilisateur de Framasoft, je ne pense pas vous avoir appris grand-chose ce soir. Sinon, si vous étiez un utilisateur occasionnel, un peu comme moi, allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a des services, vous risquez de ne plus pouvoir les utiliser très très longtemps.
Il ne faut pas oublier que Framasoft était vraiment une petite association. Hein.
Mais ça veut rester une petite association. Leur but, ce n'est pas de se développer. Tu as d'autres groupes qui essaient de se développer.
Oui, non, mais le but, c'était de montrer des services qu'on pourrait la plupart installer sur nos propres serveurs. Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont victimes de leur succès. Tu as raison. Au point de vue infrastructure, serveur, ça devenait très compliqué.
Tu ne peux pas associer... Et ils avaient du succès, c'est ça le truc. Tu ne peux pas associer succès et volonté de rester petit. Donc, ils ont pris une décision qui est compréhensible. Et ils ont fait les choses comme il fallait. C'est-à-dire qu'ils ont donné un calendrier assez long et assez large.
Oui. D'accord. On enchaîne ?
On enchaîne, je t'en prie. Je pense que Guillaume va être victime de sa latence tout le long de la soirée.
C'est ça, on va se retrouver qu'à deux.
On enchaîne.
2 minutes après.
Non, là je l'ai fait. J'étais en train de m'étouffer.
Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'on en parlait souvent des outils Framasoft.
Pardon, j'étais en train de m'étouffer. J'avais un truc en fait intéressant à dire pour une fois. Je crois que ce qui arrive à Framasoft, c'est ce qui arrive en fait à beaucoup d'alternatives de volonté et de système alternatif, en fait, qui finissent par fonctionner parce que justement les gens trouvent ça intéressant. Et à un moment, ces systèmes-là ne sont plus durables parce qu'ils doivent passer dans exactement à la taille supérieure, ce qu'ils ne voulaient pas au début, quoi.
Framasoft ne sont jamais cachés qu'ils ne voulaient pas que ce soit l'ensemble du web qui utilise leurs services.
Mais
les services, de pouvoir les installer nous-mêmes, quoi, de créer des serveurs.
Un exemple qui n'a absolument rien à voir avec l'éducation. Vous avez tous entendu parler certainement des supermarchés collaboratifs. À Saint-Etienne, il y en a un qui est en train de marcher, mais qui du coup a une volonté de rester plus petit, ou en tout cas avec des gens qui s'investissent et qui ne confondent pas que consommer le service, parce que sinon, en gros, ceux qui participent au projet ont le droit d'utiliser le service, parce que sinon, l'ancienne version de ce truc-là, ça avait cartonné, mais à un moment, les gens venaient juste consommer. C'était rigolo de dire, on veut consommer quelque chose qui nous paraît bien éthiquement, en fait. Et je trouve qu'il y a plein de gens sur Framasoft, c'était un peu le même délire, c'est-à-dire de dire, c'est bien, on va aller sur Framasoft plutôt que pas aller sur Google. Par contre, ils n'auraient pas forcément envie de s'investir aussi dans le projet et d'aider à développer ce genre de pratique. C'est juste un truc de conscience, un peu, se dire, on va utiliser ça plutôt que Google. Moi, je suis pas du tout étonné de la réaction de Framasoft aujourd'hui, quoi. Voilà.
Ouais, mais je crois pas que c'était la volonté de Framasoft qu'on s'investisse dans leur projet non plus.
Non plus, ouais, peut-être pas.
Moi, j'avais discuté avec, j'ai perdu son nom de Framasoft. Non, la volonté, c'était vraiment de faire découvrir d'autres services. Et ces services-là, le code est ouvert. Donc, le code est ouvert, ça veut dire pouvoir l'installer. Nous, par exemple, je ne sais pas, au rectorat, on pourrait imaginer installer un service de pad collaboratif ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Voilà.
Ouais, bien sûr. Voilà. Très bien, intéressant.
Allez, Actu, c'est à moi. C'est une actu sur, je voulais parler des rencontres nationales de la robotique éducative 2020.
donc organisée par l'IFE, l'Institut français de l'éducation. C'est la 4e édition. Ça se passe à Lyon. C'est en collaboration avec la Danne de Lyon. Donc, c'est un peu, voilà, j'y suis un peu aussi un peu dedans personnellement. Donc, c'est deux journées qui vont se dérouler le 15 et le 16. Le thème, c'est les robots et objets connectés en éducation, un monde de données et d'apprentissage. En ce moment, on est en train de chercher en tout cas des contributeurs pour des intervenants pour les ateliers. S'il y en a qui écoutent et qui seraient intéressés d'intervenir sur ce thème-là. Voilà, on a en tout cas deux conférenciers qui sont pour l'instant deux conférences plénières qui seront menées par quelqu'un que tu connais bien, je crois, Seb, Margarida Romero, qui sera là donc de l'INSPE de l'Académie de Nice et du Laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation qui fera une première conférence, et quelqu'un que vous connaissez sûrement aussi, André Tricot, l'Université de Toulouse, qui sera là le deuxième jour. En gros, les problématiques, c'est en quoi les robots et les objets connectés concourent-ils aux apprentissages disciplinaires et transversaux. Ils veulent vraiment, on veut vraiment en tout cas cette année aller sur cet apprentissage plus trop disciplinaire, mais surtout transversal. D'un mot qu'on entend souvent en ce moment, c'est les STEAM, l'approche STEAM. Je ne sais pas si vous avez entendu de certains acronymes, STEAM, qui veut dire science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Dire que finalement, d'accord, la robotique est l'objet. Non, rien à voir avec le jeu vidéo. Ouais.
Vidéo ouais,
tout à fait, voilà. Rien à voir. Ouais. C'est en ce moment un mot qu'on entend beaucoup, en tout cas dans la bouche des chercheurs, qui veut dire en fait interdisciplinarité, projet. On n'est plus disciplinaire, mais on fait vraiment sur du projet, sciences techno, art, ingénierie, mathématiques. Quoi. Voilà, et une petite touche sur l'acquisition des compétences du 21e siècle, puisqu'on en a beaucoup parlé du cadre de référence des compétences numériques, avec PIX par exemple, de voir un petit peu ce que les objets déconnectés peuvent apporter là-dessus. Voilà, c'est de la promo avec un mélange d'auto-promo aussi.
Tu nous feras un retour dessus.
Mais voilà. Bien sûr, je serai en tout cas là.
Tu passeras voir Margarida, voilà. Tu lui fais un petit coucou.
Ouais, je sais pas si j'irai me présenter en tout cas, on verra si elle me.
Oh ben oui, écoute. Non, parce que comme ça, voilà, elle a Annie, et quand elle passe à Nice, je lui fais un petit coucou. Quand elle passe de ton côté, tu lui fais un petit coucou.
Ça marche, ce sera fait.
Bien, et eh ben écoute, voilà. Guillaume, je vais enchaîner. Allez, avec.
Sors le feu.
Un petit sujet.
Allez,
un peu polémique, hein, puisqu'on n'en a pas parlé lors du premier podcast de la rentrée, alors qu'on aurait pu en parler, puisque c'était encore plus l'actualité, puisque. Mes chers auditeurs et collègues enseignants, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est paru au journal officiel je ne sais plus combien de septembre, du 8 septembre 2019, un décret, qui autorise, ou en tout cas qui valide la possibilité de former les enseignants pendant le temps de vacances scolaires. Donc ça a fait... je suis assez étonné parce qu'à la fois, ça a fait quand même grand bruit dans les réseaux de formateurs, mais pas tant grand bruit que ça chez les collègues enseignants. On en a parlé, mais en tout cas, de mon point de vue, pas plus que ça. En salle des profs, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a vraiment plus hérissé le poil que ça. Alors bon, l'article du Café Pédagogique que l'on vous mettra dans les notes de mission explique bien les raisons hein, de cette avancée. Avancée, mais c'est pas ce que je voulais dire. Reculade, en tout cas, de cette. C'est pas le terme que j'aurais dû employer, bien évidemment, de cette nouveauté. Voilà. Hein, la première, c'est que de toute façon, de manière accidentelle, comme il est écrit, c'est déjà arrivé que les réformes du lycée, par manque de temps et d'obligation de former les gens sur les vacances scolaires. Donc, ça a été un premier pas, on va dire. Pour la SI, notamment, bien sûr.
Ouais, NSI. Ouais.
Pour nos enseignants, et donc forcément les enseignants ont été rémunérés. Et la deuxième, ils appellent ça chronique, hein, la direction chronique, c'est que le ministère doit normalement remplacer les personnes en formation. Alors là, ça me fait bien rire quand le Café Pédagogique dit ça, puisque dans le second degré, on n'est jamais remplacé quand on est en formation, hein, parce qu'on fait une journée ou deux comme ça. Alors c'est vrai que dans le premier degré, c'est plus problématique parce qu'un enseignant absent, ça veut dire que c'est les collègues qui récupèrent les gamins s'il n'y a pas de remplacement. Enfin voilà, c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Mais ce qui est rigolo, c'est que du côté des corps d'inspection, et pour les connaître un peu, quand on en discute, même les inspecteurs n'y croient pas une seule seconde, puisque ce que reprend l'article, c'est que si on part du principe que les gens en formation pendant les vacances scolaires sont payés de manière supplémentaire, c'est-à-dire là on donne un chiffre, hein, 20 euros de l'heure dans la limite de 120 euros par jour, donc pour 6 heures, ça fait un budget de plus de 500 millions d'euros à trouver, si j'ai bien lu l'article, et un budget qui, bien évidemment, à l'heure où on suce tous des cailloux, où on en est tous à trouver de l'argent pour les projets et autre chose, ne peut être alloué. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on publie un décret qui instaure quelque chose de plutôt polémique, mais parfois un peu pondu comme ça sur le bord de la table, parce que c'est pareil, qui va aller les faire, ces formations ? Moi, je suis formateur non déchargé, je suis payé, mais je veux dire, c'est les corps d'inspection qui demandent aux formateurs d'intervenir, aux enseignants de devenir formateurs, je ne suis pas ce qu'on appelle un formateur académique, donc si demain on me demande de faire ça, clairement je vais refuser. Est-ce que les formateurs académiques qui, eux, sont déchargés pour ça, auront l'obligation de le faire, ou comme les CPC dans le premier degré, on n'en sait rien, hein, clairement. Donc j'ai un peu l'impression que c'est encore un truc qu'on a pondu comme ça et qui, de toute façon, va finir en autre boudin, puisque ça sera impossible à mettre en place, quoi. Voilà, donc c'était un petit peu le tout ça pour ça, et on verra bien ce que ça donnera, mais je n'y crois pas une seule seconde personnellement.
Mmh. Moi, c'est rigolo parce que quand tu as mis ça, ça m'a fait penser à un article que j'ai lu dans Parents Prof, le mag. Alors,
ça existe,
alors je précise que c'est parodique pour ceux qui ne connaissent pas.
Ah ouais.
Sinon, voilà.
Ah bon, je sais. Et,
c'est le Gorafi de l'enseignement, c'est quand même à hurler de rire.
Voilà, et en fait. Si tu veux, ça commence. Il y a une partie qui fait rendre obligatoire la mobilité des enseignants, renforcer leur formation continue hors de la période scolaire, introduire l'avancement au mérite. Ce sont quelques propositions extraites d'un rapport sénatorial sur le métier d'enseignant. Son auteur, Gilles Laperche, s'en explique. Ce rapport s'inscrit complètement dans une tradition française qui consiste à emmerder les profs. Même si c'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer et qui est en pleine crise de recrutement, on propose de leur nuire encore plus parce que c'est notre kiff. Et la suite, c'est dans la même chose. Voilà. Et ça m'a fait penser à ça, quoi. Tu as le truc qui débaroule comme ça, tu dis, mais... Enfin, non, quoi. Non, non. Puis bon, maintenant que tu me donnes des petites... comment dirais-je, des petits caramels à sucer dans l'histoire que, ben, en plus, c'est limite inapplicable, je trouve ça merveilleux.
Ouais, voilà. Je suis assez d'accord avec le... avec le fait que je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. En fait, je me dis que je trouve qu'il y a un côté très encore très populo là-dedans. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on répond aussi aux non-enseignants en disant bah regardez les profs maintenant ils vont se former, ça embêtera pas vos gamins quoi. En gros c'est ça. Hein. Et finalement c'est n'importe quoi quoi. En fait et je vais vous dire un truc. Le pire, c'est qu'au début, quand j'y réfléchis, je me disais, est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée ? Finalement, je me disais, pourquoi pas imposer, mais dans la limite peut-être même d'une journée, hein, dans un premier temps, sur le début des vacances de Toussaint ou je ne sais quoi, une journée. Par contre, avec des formations pour le coup vraiment de qualité, avec des gens qui ont vraiment réfléchi et pas un truc qu'on se met en cercle et on fait des paperboards, pourquoi pas ? Pourquoi pas parce que je suis persuadé qu'en fait, les gens seraient peut-être bizarrement plus détendus aussi, c'est-à-dire avoir un vrai moment hors, pas se dire demain j'ai cours, ou enfin, je sais pas, je suis un peu confus là dans ce que je dis, mais voilà.
Moi, si tu veux, Guillaume, là où je ne vais pas te rejoindre, c'est que je vais faire un peu mon vieil instinct. Quand j'ai débuté le métier et quand on était en formation, il y avait ces moments en deuxième année où on partait remplacer un collègue pour apprendre le métier. On partait le remplacer 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Lui, on le remplaçait. Donc, techniquement, il n'y avait pas de remplaçant à la clé. Lui, il partait en formation pendant 3 semaines.
3 semaines.
3 semaines de formation. Et il faut bien se mettre en tête de ce que ça peut... C'est un truc que je ne vois plus maintenant. Ça n'existe plus. Maintenant que je regarde mon PAF, c'est... Oh, punaise, 2 jours de formation, c'est un luxe. Voilà. T'imagines 3 semaines de formation, tu sors de ta classe, on t'apporte des trucs. Ça veut dire qu'il y a une équipe quand même qui a réfléchi. Alors, je ne dis pas qu'à l'époque, tout était merveilleux, que les plans de formation étaient super. Il y avait des trucs qui étaient complètement à jeter. Mais par contre, tu avais 3 semaines de formation. Et le pire, c'est qu'on faisait ça 2 fois dans l'année. Non, 3 fois dans l'année. On faisait ça, on remplaçait des collègues 3 fois dans l'année. Ça veut dire que dans l'année, on permettait aux gens à différents collègues d'avoir des formations de 3 semaines. Ça a été jeté aux orties, complètement jeté aux orties, notamment quand un ancien président était passé par là, il y avait dit, des profs, ça sert à rien. Voilà.
Donc, non mais je pense que de toute façon, c'est pas une bonne idée dans le sens où il faut que c'est pas on n'a pas les moyens, enfin ils n'ont pas les moyens et il faut que ce soit pensé autrement. C'est pas juste le fait de faire venir des gens comme ça, il faut que ce soit pensé autrement, réfléchi autrement, amené autrement. Donc ma foi, pour l'instant, bof. En tout cas, ils compteront pas sur moi pour faire ça dans un premier temps. Je peux vous le dire. On enchaîne.
On enchaîne.
Ok.
Jeff,
on passe sur la partie outil.
Un outil.
Alors même un pour le prix, enfin deux pour le prix d'un. je vais vous parler d'outils Google. Ça faisait longtemps, hein, moi qui essaye de sortir un peu de la sphère Google. Qui essaye pourtant de sortir un peu de la sphère Google. Mais ils ont quand même des outils assez puissants. Moi qui essaye un peu de travailler un peu avec tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Ils ont peut-être le premier outil que j'en ai peut-être parlé dans un ancien e-teacher, je sais pas, qui s'appelle Google Expedition. Donc Google Expedition, en gros, c'est justement pour voyager sans se déplacer. En gros, hein, c'est ce que propose Google. Les élèves ont un écran devant eux, souvent ou smartphone ou tablette, ou voir si vous avez la chance d'un genre de petit casque en carton, vous savez, où on insère un smartphone dedans pour faire un peu réalité virtuelle. Donc un Google Cardboard, comme on les appelle, et où l'enseignant va pouvoir, en tout cas, lui, à travers son écran, faire voyager les élèves, montrer des choses aux élèves sur cet environnement qui est en fait un environnement de photos en 360, hein, où le prof va pouvoir faire en tout cas voyager, montrer des choses, raconter une histoire là-dessus. Donc souvent, Google Expedition, il y a beaucoup, beaucoup d'expéditions en tout cas qu'on trouve. Il y a une grande liste d'expéditions connues, beaucoup anglo-saxons, hein, forcément, on est chez Google. Mais il est sorti en tout cas un outil pour créer ses propres expéditions qui s'appelle Tour Creator. Et elle est là la puissance de Google parce que bon, l'outil Expedition, il vaut ce qu'il vaut, il est quand même intéressant. Puis surtout, il marche sans connexion Internet aussi, j'ai oublié de le dire. C'est assez intéressant, il faut simplement un Wi-Fi local pour récupérer les expéditions. Donc on n'a pas besoin de se connecter constamment à Internet. Mais l'intérêt, c'est le Tour Creator. Le Tour Creator, c'est pour créer ses propres images 360 et faire naviguer d'images 360 en images 360 en rajoutant des points d'intérêt dessus, en rajoutant, je ne sais pas, une image, une vidéo à un endroit particulier, un texte. Donc en fait, comment ça se passe ? Eh ben, il faut d'abord prendre une image à 360, donc plusieurs façons de le faire. Hein, si vous avez la chance d'avoir une caméra 360, qui commence à se démocratiser, c'est assez simple, hein, un clic et ça marche. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire à vos élèves avec leur propre smartphone, avec leur tablette. Il existe pas mal d'applis en tout cas qui permet de faire du 360. Google en propose une, c'est par Street View. Où on va prendre une succession de photos et qui va en créer en fait une sphère, hein, 360. Toutes ces photos-là, une fois qu'elles sont prises, ben soit vous partez en sortie scolaire avec les élèves, soit c'est vous qui allez dans un lieu qui est très peu inaccessible en tout cas pour les élèves. Pas mal de collègues d'SVT qui trouvaient pas mal d'avantages à ça pour aller dans des lieux un peu compliqués pour les élèves. Ensuite, vous mettez tout ça sur Tour Creator et vous animez tout ça. Vous faites des liens entre les images. Vous rajoutez donc tous ces points d'intérêt, toutes ces choses supplémentaires, hein, comme photos, je disais, vidéos, etc. Et ensuite, vous, avec Google Expedition, comme je disais tout à l'heure, le prof va lancer à sa classe le voyage, et c'est le prof qui va toujours le maître du voyage, où il va dire « regardez ça, on a regardé tel monument, on va pouvoir entourer à un endroit particulier, je ne sais pas, quelque chose sur l'architecture du monument, ou des choses comme ça ». Voilà, en gros, voilà. Et puis ensuite, ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est, voilà, c'est vrai que j'essaie de sortir un peu des outils Google, mais quand ils ont vraiment une force là-dessus, sur ces images 360, c'est vrai que quand on est immergé, moi, j'ai testé avec un casque de réalité virtuelle. Alors là, on est carrément immergé dans ces images. C'est assez bluffant. Il existait pas mal d'outils qui faisaient un peu comme Tour Creator, mais pas avec la puissance Google, quoi, pas avec la puissance d'une simplicité comme ça, et puis de pouvoir vraiment raconter une histoire aux élèves, montrer des choses sur l'image, et que tout le monde est vraiment bon devant son écran ou immergé complètement, c'est assez bluffant. Voilà, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez déjà vécue, en tout cas vous, sur immerger sur des visites, en tout cas, sans se déplacer.
Non, je n'ai pas quelque chose que je connais, mais je suis assez intéressé.
Alors moi, si tu veux, je peux rajouter un truc. Justement, tu parlais de Google du côté, entre guillemets, obscur. Le côté, là, ils ont dernièrement sorti ce genre de choses sur le château de Versailles.
Ouais.
Je l'ai entendu dans le mug de Naotech, du coup, où justement, bah, tu peux aller visiter le château de Versailles avec ton casque de réalité virtuelle, sauf que là, il n'y a personne, quoi, forcément. Ils l'ont entièrement recréé avec je ne sais pas combien de teraflops de données qu'ils ont recueillies sur place. Donc, apparemment, ça a l'air une super aventure.
Mais là, en totale autonomie, hein, voilà. Ouais. Voilà, ce qui est intéressant sur le parce qu'il y en a pas mal des trucs en autonomie, hein, comme tu disais là, mais ce qui est intéressant, je trouve vraiment que c'est dirigé par l'enseignant, quoi. Voilà, l'élève n'est pas lancé comme ça à aller trifouiller partout à droite à gauche, c'est vraiment l'enseignant qui dirige, qui montre, qui voilà.
Ça me rappelle
ça que je trouve intéressant
ce que faisait un de nos invités sur Ludovia, Ludo Live,
ce que faisait
cette année notre première la première personne que l'on avait.
Voilà. On vient de chercher, Seb.
Les gars, bon, j'y vais. Hein. Voilà, ça fait longtemps. Il utilisait aussi des visions à 360 dans son dispositif.
Ok.
Voilà. Je crois que c'est
bien.
Sauf s'il a une réaction.
Comment ?
Sauf si Guillaume a une réaction, c'est à lui.
Allez, non, mais c'est moi, j'enchaîne. Alors moi, je vais vous parler en fait, pas de vraiment d'outils, mais de sites ressources plus pour l'éducation, médias et l'information. C'est le journal Le Monde en ligne qui propose ça, qui propose en fait un outil de décodage qui s'appelle les décodeurs. Et je trouve ça assez pédagogique en fait, puisque l'idée, c'est, il y a deux choses. Il y a d'abord une page, clairement, les décodeurs qui décryptent en fait les vraies fausses informations ou tous les hoax ou autres fake news. Donc, c'est-à-dire que quand vous travaillez en recherche Internet ou quand vous travaillez en EMI, hein, en éducation média à l'information, j'aime bien, en fait, souvent leur montrer cette page puisque, les peu de contenus journalistiques qu'ils peuvent lire, ils ne les lisent pas sur Le Monde, clairement, hein, sur tous ces blogs à la mode. Et quand il y a des trucs parfois un peu trop gros, quand ils sont un peu perdus dans ce que... Parce qu'on a quand même de plus en plus d'élèves qui sont un peu perdus dans ce que ils entendent, ce qu'on leur dit ailleurs. Enfin, c'est assez intéressant. Nous, on travaille avec des quiz actu pour les troisièmes. Chaque semaine, ils ont un quiz actu à répondre que l'on leur propose en fonction de sources qu'on leur demande de lire. Et des fois, pour vraiment améliorer leur connaissance de l'actualité, on aime bien leur donner ce site. Voilà, donc les décodeurs, ce sont des articles d'abord, hein, voilà, qui décryptent en fait l'actualité en disant, par rapport à ce qu'on entend dans les médias de masse, ça me remet en question pas mal d'ailleurs ce que les médias de masse peuvent dire, c'est tout expliqué, c'est très intéressant. Je prends un exemple, hein, pourquoi la Greta Thunberg, dont on en parlait en long, large, en travers, il y a eu beaucoup de ses détracteurs, des gros débiles par ailleurs, qui l'ont critiqué sur des positions sur le nucléaire. Voilà, on explique pourquoi elle a été injustement critiquée sur ses positions sur le nucléaire. La cigarette électronique, notamment, on entend n'importe quoi, est-ce que c'est dangereux ou pas le vapotage, etc., etc. Donc c'est toujours très bien sourcé. Il n'y a pas vraiment de parti pris, faut le dire. C'est assez objectif quand même, ça donne en fait d'autres sources pour justifier leur réponse. Et ce même site, lemonde.fr, propose en fait un outil qu'ils appellent Décodex, qui est une sorte de lien. Vous rentrez un lien par rapport à un site qui vous paraît un peu suspect. Et en fonction de du moteur de recherche proposé dans des codecs, il va vous dire tout de suite si le site en lui-même est complètement bidon ou pas. Vous pouvez faire le test avec le Gorafi, hein, c'est pas mal. Ou même d'autres sites. Et ça vous donnera des éléments d'information s'il faut se méfier ou pas. Et ils ont même poussé le truc jusqu'à proposer un add-on, un petit plugin hein, pour les navigateurs qui permet directement de l'avoir dans la barre du navigateur. Voilà. Donc, c'est pas du tout au départ destiné aux élèves, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, je trouve que c'est plutôt très utilisable avec des élèves. Clairement, il y a un vrai côté pédagogique dans ces deux outils. Voilà, tout simplement. Okay. Les décodeurs et le site Décodex sur lemonde.fr.
Bon, parents prof, le mag, ils connaissent pas.
Ah ouais, attention, ça c'est un truc qui, à mon avis, c'est un moteur de recherche qui est indexé. À la fois mis
à la main
ouais. Donc c'est sûr hein, c'est pas je pense qu'on doit même pouvoir proposer des sites certainement envoyer des choses donc oui c'est pas un moteur de recherche automatique hein. Clairement okay.
Voilà
allez ok super hein. Seb
sur cet accès d'énergie je vais passer à ma rubrique de l'année la première
ah bon
quand je vous parlais de
oh purée. Ils sont souvent plus beaux créateurs.
Ouf, non.
non. Cette monsieur. Année, c'est plus une beaux créateurs.
Non. Ça, je fais une rubrique une fois par an, c'est les ENT dans l'école primaire.
Ah, pardon.
Il y a deux ans, c'était Classe School. L'année dernière, j'ai essayé Benelux School. Et cette année, j'essaye Éducartable. Alors, Éducartable, c'est bien parce que j'étais un peu en terrain connu, vu que c'est la boîte EduMove qui est derrière. Donc, c'était bien. Je suis arrivé là. C'est comme un petit peu passer des pantoufles aux petits chaussons. C'était très, très sympathique. Là, j'en suis à la fin de mon premier mois d'utilisation. Et comment dire ça va être compliqué. Faisons simple. C'est super. Voilà, c'est super. Voilà, l'interface est simple comme je la voulais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de trucs qui vous ont proposé. Vous avez un cahier de texte, un cahier de liaison, et ils vous ont rajouté un petit cahier de vie, c'est-à-dire un endroit où on peut mettre des photos qui, à la fin de l'année, peuvent donner lieu à un livre imprimé pour de vrai. Donc voilà, c'était quelque chose de simple. Ils ont une application et bien sûr une page Internet, ça c'est forcément, mais ils ont une application mobile qui, pour l'instant, me donne entière satisfaction. Ils ont, une procédure d'inscription qui est méga simple pour les parents, à tel point que c'est la première année depuis que je mets en place l'ENT que j'ai, eh bien, sur mes 26 élèves, j'ai 25 d'entre eux qui sont inscrits. Et là, je pense que le dernier, ça ne va pas tarder, quoi. Voilà, c'est donc procédure d'inscription super simple, ça fonctionne très bien, j'ai vraiment des échanges avec les parents là-dessus. Je vais taper un peu parce qu'il faut aller gratter un peu. Au niveau des notifications, quand de recevoir un message, etc., vu que ça se fait par mail, c'est perfectible. Mais franchement, voilà, l'année dernière, je trouvais que c'était bien, mais c'était trop. Il y avait trop de choses sur Benelux School. Classroom, c'était les débuts, donc ils ont eu le temps de s'améliorer, je le sais. Mais là, je suis arrivé, j'avais mes petites habitudes là sur les autres services d'EduMove, je retrouve mes habitudes. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand je vais faire mes livrets, eh bien, les parents pourront y accéder par le même service. Donc, je suis ravi. Voilà, ravi. Allez, ça a été une transition que je ne regrette pas.
Les parents, oui, tu parlais des parents. Les parents, ils sont dessus, ça y est.
Pardon, oui, les parents, ils sont dessus. Ils m'envoient des messages pour me dire que le petit a un rhume, le petit a oublié son cahier de texte, etc.
Il a envie de prendre en main.
Voilà. Et un petit plus, là, dernièrement, je me suis aperçu que quand on mettait les devoirs, il y a possibilité d'avoir une série d'exercices en ligne qui ont déjà été qui sont faits par une boîte à côté sur des je sais pas moi par exemple il y avait du vocabulaire en anglais que j'avais demandé aux enfants de revoir mais il y avait des petits modules pour s'entraîner dessus tu as la même chose bien sûr en français en maths etc donc juste une case, un exercice à, proposer. À proposer hein. Après,
est-ce que c'est RGPD friendly hein?
Ah, c'est RGPD friendly en plus. C'est RGPD friendly. Tu arrives, ils ont marqué, ils ont ils ont le tampon RGPD, on aime ça.
Bon,
non, il n'y a pas de souci, mais si tu veux, ils ont essayé de faire en sorte que du côté des enseignants, ce soit assez simple. Et du côté RGPD, ils exposent assez facilement, ils te proposent des formulaires à donner aux parents, et c'est les parents qui font la démarche de s'inscrire sur le service. Tu ne fais pas l'inscription et ensuite tu ne fais pas la demande d'autorisation et ensuite l'inscription. C'est le parent qui est responsable de l'inscription là-dessus. Et on lui explique ce qu'il en est.
Et tu n'as pas parlé côté financier, ça coûte quoi?
Ah oui, côté financier, c'est de l'ordre du 12 euros. Pour l'année et pour la classe.
C'est tout?
C'est tout. Voilà.
C'est vrai? C'est vrai. Les parents ne payent pas.
Les parents, rien du tout. Rien du tout.
Même l'appli, rien. Non,
non, okay. Non, l'appli est gratuite.
12 euros pour la classe pour les parents.
Donc ils ont intérêt en lier les classes. Hein.
Comment?
Ils en ont fait... intérêt en vendre de la classe pour que leur modèle soit.
Ouais, je disais le business model, ouais. Ouais.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, il y a une toute petite équipe derrière Classroom. Dernièrement, sur leur, ils ont un petit blog, blog, etc. Tu verras que c'est une toute petite équipe. Alors, ils ont toujours l'enthousiasme, etc. Dans le monde de l'entreprise, on appellerait ça une licorne, paraît-il. Pour l'instant, ils sont en phase de développement. Il y a quelques années, ils avaient demandé de voir si ceux qui les suivaient déjà étaient prêts à aller à assurer ça. Par exemple, moi, pour rien cacher, moi, j'ai pris un abonnement sur 3 ans pour les services que je prenais déjà. Voilà. Donc après.
Et tu te le fais rembourser ça ou c'est toi qui le payes de ta poche?
Alors ça dépend quoi. Par exemple le côté cahier journal et le côté livret etc. Ça je le garde pour moi. Ça c'est un outil que je considère qui est de mon fait donc je le garde pour moi. Par contre là le côté ENT ça je me le fais rembourser. Donc je vais pouvoir me manger un bon sandwich avec ça.
Cool. Ok super.
Voilà.
Ouais, est-ce que bon.
Est-ce, allez.
Est-ce que vous avez Ok. On a fini avec les outils.
Ouais,
truc astuce, monsieur.
Allez, vas-y. En plus, je t'ai vu sur Twitter avec ça, toi.
Ouais, bah, surtout que. Alors, je pense que c'est pas nouveau du tout. Non, hein, mais je suis un truc que je connaissais pas, tout bête. Hein. Quand on va regarder une vidéo en streaming, YouTube, Vimeo et consorts, il y a souvent de la pub. Hein, c'est bourré de pub. Alors, on avait proposer quelques services en ligne qui permettaient de un peu de purifier un peu tout ça. Mais en fait, il y a un truc tout con qu'on a tous sur nos ordi qui s'appelle VLC, le célèbre lecteur de vidéo. Et en fait, VLC, quand on fait fichier ouvrir, on peut ouvrir à partir d'un URL. Et à partir de ce URL-là, vous collez l'adresse de la vidéo. Et en fait, il voulait la vidéo, mais propre, de chez propre, quoi. Vraiment, sans rien autour, etc., directement dans VLC. Je pense que c'est pas nouveau, mais je pense que pas grand monde le sait, dont moi, je le savais pas. Donc, c'est pour ça que je remerciais sur Twitter, justement, Alain Michel qui a proposé ça.
Merci, Michou.
Donc, que beaucoup de monde ne connaissait pas ça, et qui finalement vraiment fait l'essentiel, puisque je pense que sur tous ordinateurs, en tout cas, dans nos établissements, on a VLC et ça marche aussi avec des playlists. Vous avez une playlist carrément, vous ouvrez directement l'URL de la playlist dans VLC et vous le lisez très proprement. Voilà, c'était le petit truc assez
très drôle de soirée. Parce que moi, je suis tombé là-dessus, mais en fait, je suis tombé sur une grosse discussion entre justement Alain Michel et un ancien collègue qui s'appelait François Lamoureux, qui est YouTuber, entre autres choses que... en plus d'être vidéaste, sur le fait que, et les pubs qui rémunèrent ceux qui font du contenu, etc. Enfin bon, voilà, après c'était un débat...
Autre, mais du côté pédale, je trouve que c'est super intéressant, quoi.
Ouais, non, mais en fait, VLC, à chaque fois qu'il y a un truc sur la vidéo, je regarde et tu as toujours une astuce sur VLC pour faire ci, pour faire ça. Alors que bon, moi, bêtement, je l'utilise pour regarder des vidéos et c'est tout.
Comme beaucoup de monde, et en fait, il est
Voilà.
très très puissant. Voilà, tu connaissais ça, Guillaume?
Ouais, je connaissais, mais c'est un super outil, ouais. Tout à fait.
Qu'on pense pas. Hein?
Voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est un cône qui fait le, comment dirais-je, qui est le symbole de VLC, j'ai
Ouais,
fait une vidéo
c'est quoi?
là-dessus. C'est
Ouais, je
vrai?
l'ai vu, elle est top.
Ah,
Surtout
j'ai pas vu
Pito, ouais.
ça.
Pas trop drôle.
Non, bon, j'irai voir
Ok,
ça.
let's
Allez!
move on. Jeff, c'est encore
L'innovation,
à toi.
expérimentation, c'est encore à moi. C'est moi qui mets de
Ben
l'innovation, expérimentation. Je ne savais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis là. Je voulais parler de deux choses. Arte a sorti une série qui s'appelle Dopamine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
oui.
Non, ça vous parle? Donc, c'est une
Ici.
série très, très courte de 10 épisodes, justement, sur notre addiction, en tout cas, à nos smartphones, à nos applis, en tout cas sur smartphone. Il y
À
en
nos réseaux
a.
sociaux.
À nos réseaux sociaux, on parle de Facebook, on parle de comment ça s'appelle,
Twitter.
de Twitter, du petit jeu Candy Crush, on parle de Tinder, on parle de, voilà, j'en oublie beaucoup, et elles sont vraiment très très courtes, très bien faites, vraiment vraiment bien bien foutues. Et ce qui est super, donc elles sont libres, hein, vous allez sur arte.tv, vous les trouvez. Et en tout cas, Canopé a sorti tout un dossier pédagogique, en tout cas, pour travailler avec les élèves à partir de ces vidéos, qui s'appelle la course à l'attention. Donc, c'est du cycle 3 à la terminale, avec pas mal de choses, en tout cas, d'abord de quelques interviews de différentes personnes sur cet aspect, comment on fait rester, en tout cas, nos. Alors, même les adultes, hein, les différentes personnes qui sont devant. Hein, donc, on parle de l'économie, captation de l'attention, on parle de design de numérique, hein, comme on fait, en tout cas pour tout l'aspect design qui est très important aussi. Les notifications, on parle voilà, des algorithmes, on parle voilà, de tout ça. Et en plus, on a des pistes pédagogiques assez intéressantes, en tout cas pour travailler avec les élèves. Au cycle 3, on parle de Candy Crush, par exemple. Au cycle 4, on a des travail sur son application préférée, sur la publicité qu'on trouve dans les réseaux sociaux. Au lycée, on va trouver tout ce qui est circuit de la récompense dans les différentes applis, hein, tout ce qui est l'identification, sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. En tout cas, c'est un dossier super bien fait, vraiment bien construit, avec où j'ai appris pas mal de choses, moi, que je ne connaissais pas forcément. Un travail avec beaucoup beaucoup de monde d'ailleurs, hein, vous verrez alors c'est encore un travail un peu lyonnais, hein, je suis désolé de parler un peu de ce que je connais ce soir, voilà. Et c'est en libre, totalement libre, hein, je vous mettrai les liens dessus. Si vous allez sur le réseau canopé.fr, vous tapez dopamine, vous allez trouver, en tout cas, ce dossier, en tout cas, d'accompagnement de la série dopamine. En tout cas, je vous conseille d'aller voir au moins la série. Et si ça vous parle, de faire pas mal de travail avec les élèves là-dessus, c'est assez assez intéressant. Voilà, sur cette partie un petit peu. Voilà, je sais pas si elle avait sa place dans la partie innovation, expérimentation, mais je
Oh,
trouve que
il
c'est pas
fallait
mal
la
de.
mettre quelque part.
Voilà. Voilà, messieurs?
Bon, ben
Voilà,
oui, est-ce que...
j'ai laissé Guillaume, vraiment. Il ne bouge plus. On l'a perdu, non? Il a eu un
Ah,
bug, Guillaume. Hein?
ouais, apparemment,
Ouais,
oui.
ouais.
Ouais. Ouais, je ne sais pas
Allez.
pourquoi, j'ai cru que tu allais nous parler d'un bouquin là qu'on voit passer en ce moment là sur l'addiction aux écrans. Je suis bien content que tu aies parlé de ça plutôt.
Ah bon, d'accord, ok, je vois pas de quel bouquin. Non. Là, c'est pas
Ouais.
l'addiction qu'aux écrans, hein, c'est toutes les
Non,
stratégies, tu as compris. Hein.
c'est
Toutes les
justement
stratégies
ce
que
qui est
les applis,
super
voilà.
intéressant. Oui,
Ouais.
c'est ce qui est super intéressant à comprendre, c'est comment on utilise toute une stratégie. Alors là, je me suis déconnecté
Non,
aussi.
non, 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 t'y es, toi. T'y es,
Ah,
t'y es, t'y es.
pardon. Alors tout va
C'est
bien.
Guillaume qu'on a perdu.
D'accord. Donc non, mais là, le côté comment est-ce qu'ils essayent de nous faire tenir le plus longtemps possible devant un écran, et nous y faire revenir le plus rapidement possible quand on le quitte, c'est très 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 intéressant. Donc
Non,
je vais
mais c'est
passer à ce
intéressant.
que je fais en ce moment, quand même.
Allez,
En ce
qu'est-ce que
moment,
tu fais en ce
j'ai.
moment?
Ben, en ce moment, je prends du plaisir avec un truc un peu étrange qui s'appelle Calque. Rococo, Guillaume.
Hello.
Calque est le module tableur de LibreOffice. Et ben moi, en ce moment, j'ai les mains un peu dedans tous les week-ends.
Tu me fais
Le
rêver.
dernier, oui.
Tu me fais rêver.
je sais, moi, les mains dans le tableur.
Oh, un tableur.
Voilà.
Ouh.
Ouais. Mais le truc, c'est que c'est soit j'ai les mains dans le tableur et j'y passe 1 heure dans un week-end et je gagne un temps fou ensuite, soit je fais ça à la main et j'y passe mes soirées. En fait, là, en ce moment, dans ma classe, j'ai mis en place Pidapi et j'avais besoin que d'avoir un outil où, quand j'ai fini de voir ce que les enfants ont réussi, ce qu'ils ont travaillé, que ça me donne tout de suite un tableau d'ensemble sur ben, ce qu'ils vont avoir à travailler la semaine d'après et ce pourquoi ils sont prêts. Donc là, j'ai enfin réussi, j'étais tout content. Quand on réussit à faire un truc propre sur un tableur, on est toujours content. Et là, le week-end dernier, j'ai enfin réussi à remettre en place, à remettre en page mes graphiques de dictée. Hein, parce que moi, pour chacune de mes dictées, j'évalue si ben, l'orthographe des mots est correcte, les terminaisons, les accords, les majuscules, s'il y a eu des oublis. Tout ça, je l'évalue. Et pour que ce soit clair pour les enfants, j'avais envie que ce soit juste un système de barres avec une note générale. Et quand j'y suis parvenu, ben, j'étais très content aussi. Donc voilà, j'ai les mains dans le tableur. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Eh ben,
D'accord. C'est bien le tableur. Oh.
ouais.
J'essaie toujours de fuir, moi, le tableur, moi.
Le tableur est ton ami pourtant.
Le tableur est ton ami.
Mamie. Allez,
Allez,
qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, toi, Guillaume, plutôt d'abord, non?
bon, allez, j'y
J'ai
vais,
beaucoup
moi.
parlé, moi.
Moi, je fais en ce moment, je mène j'en ai peut-être parlé en fait, je sais plus,
Tu
non?
en as parlé, mais il a peut-être avancé ton projet.
J'en ai déjà parlé, il me semble bien. Ouais,
Tout à fait.
bon,
Mais...
alors oui, il a avancé, je vous ai déjà parlé un petit peu de mon
Bah
projet,
oui,
de
c'est
me lancer avec des
ton fil
partenaires
rouge.
européens, voilà, c'est un peu le fil rouge. Donc ça y est, on a avancé puisque la grande foire, c'est un peu la foire aux bestiaux eTwinning, c'est assez rigolo parce que vous vous retrouvez sur une plateforme collaborative avec des pays qui ont des projets, donc. Mais comme tout le monde n'a pas la même velléité ou volonté d'avancer sur le projet, on a clairement des pays, on va dire, émergents. Ou des pays de l'Est, hein, souvent, ou les Turcs notamment, qui sont vraiment à fond, parce que je pense que dans leur pays, pour leurs écoles, c'est clairement un projet qui valorise l'école, de dire qu'ils sont ouverts sur le monde avec des partenariats internationaux. Donc ça, c'est clairement quelque chose, on les sent vraiment pousser les projets, alors que nous, Européens, et surtout nous, Français en premier, on n'est pas souvent... Il y en a, hein, des collègues qui font plein de choses, attention, mais par rapport, proportionnellement, il y a beaucoup plus d'établissements... de l'Est qui sont moteurs sur ce genre de projet. Donc en fait, une fois qu'on s'est rendu un peu disponible, là, bon, on crée des contacts dans le réseau, bien sûr, et je me suis retrouvé assez vite assailli, hein, clairement, de propositions de projets collaboratifs. Et ben là, je suis en passe de signer, si je puis dire, avec un projet qui rassemble des Allemands, des Italiens, des Turcs, des Français et des Espagnols, je crois. Autour bon, d'une thématique autour des révolutions industrielles dans les pays. Enfin bon, c'est les sujets, si vous voulez, c'est pas toujours ce qu'il y a de forcément plus intéressant. Faut aller un peu au-delà. C'est un peu comme les maisons, en fait. Quand vous voyez une maison, faut voir le potentiel de votre maison après travaux. Si vous en arrêtez tout de suite au sujet, la plupart du temps, moi, ça m'excitait pas, quoi. J'ai même répondu des fois. Souvent, il y en avait encore un truc autour des habitudes alimentaires des gamins. Moi, j'en peux plus des habitudes alimentaires. Et les gamins, ils en peuvent encore moins, quoi. Ça suffit, quoi. Ou on va faire un truc aussi autour de l'Internet responsable. Enfin, ça, c'est des thématiques, on n'en peut plus, quoi. Il faut voir autre chose. Donc, celle-ci m'intéressait un peu plus, qu'il y avait un vrai côté historique. Et puis, on va voir derrière ce qu'on peut amener. Donc, une première phase, là, pendant une année, où on va travailler, a priori, ensemble à distance. Et peut-être ensuite donner lieu à ce qu'on appelle des mobilités. Donc, les mobilités, ça serait la possibilité d'emmener nos élèves en rencontre dans tous les pays. Alors, quand je dis nos élèves, et c'est un peu le problème, hein, c'est pour ça que moi, j'avais toujours un peu de réticence à l'idée de travailler en Erasmus+, ou en e-twinning, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas emmener tous les élèves. On va avoir un gros budget pour faire partir les élèves, mais on va être obligé de faire des choix, et ça me pose un énorme problème. Et les collègues français qui le font déjà, souvent dans leurs établissements, ils sont d'ailleurs en bisbille avec tout un tas d'autres collègues qui disent, bah, nous, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas avoir faire de choix. Alors, comme moi, j'ai monté une section internationale dans mon établissement, je n'ai pas trop le choix, il faut que je lance ce genre de projet, mais je reconnais que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que je serais presque prêt plutôt à dire, ben, le budget, je le prends pour tous mes élèves en une fois et on va tous au même endroit, plutôt que d'envoyer par an 4-5 élèves maximum avec deux profs à chaque fois, quoi. Donc, je ne sais pas trop. Là, c'est la prochaine phase. On va en discuter. On va voir comment faire pour travailler avec ce budget. Et puis, on va voir. Mais je vous donnerai des nouvelles en temps et en heure.
C'est bien. Ouais, c'est souvent ça, Erasmus. Hein, c'est ça le truc. C'est toujours 3-4 élèves qui partent. Hein. Ouais.
Alors, c'est bien de l'Erasmus+, hein, c'est pas à confondre avec le programme Erasmus pour les étudiants.
Non, je sais. J'ai suivi des projets Erasmus+.
Mais je sais que moi, c'est quelque chose qui est en train de m'embêter un peu. Après, la plateforme eTwinning est quand même assez puissante en termes d'outils Web2 pour échanger. Mais nous verrons. Voilà, je vous tiendrai au courant.
Ok. Alors moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je m'amuse.
Avec un tableur?
Bien. Non, pas avec un tableur. Donc voilà, là, en ce moment, je m'amuse avec un outil que j'avais déjà, me semble, présenté un bon bout de temps déjà, qui s'appelle App Inventor du MIT, qui permet de créer des applications Android uniquement, sans une ligne de code, juste avec du bloc. Donc on peut, avec cette application, faire une interface graphique d'applications et de programmer certaines choses. Donc là, je me suis amusé un petit peu à prendre en main ça, et puis tant que je me suis dit, on peut créer des apps en tout cas qui vont servir en tout cas pour les tablettes, pour les voilà, que je peux utiliser avec les élèves. Donc je suis parti sur une app très simple de scan de QR code, hein. Il y en a, existe des millions. Et je me suis dit, je vais en faire une. Elles sont souvent bourrées de pubs, donc force. Je me suis dit, ça peut être pas mal. C'est pas si simple de tout faire. C'est simple d'ouvrir une page URL avec une page URL, un QR code qui ouvre une page internet, c'est très facile. Et après, si on veut faire du SMS ou des choses comme ça, ou vous savez, des contacts là, vous savez, des V-cards là. Pour les contacts, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et puis je suis en train d'en faire une deuxième qui est un simple recorder audio qu'on va pouvoir s'enregistrer, lire et enregistrer et partager le petit fichier. Voilà, c'est sans prétention.
Et est-ce que c'est plus simple l'enregistreur?
Il y a toujours, je sais pas si c'est plus simple, on trouve toujours des difficultés en tout cas, hein. Des choses qu'on n'avait pas pensé, voilà, sur l'enregistrement par exemple, sur les autorisations que demande le téléphone pour enregistrer au bon endroit par exemple, tu vois.
Et ça, tu fais ça dans le but de développer la programmation, en fait. C'est un vrai travail, quoi. C'est pas pour faire une appli, quoi.
Oui, c'était déjà pour me former, moi, sur App Inventor, l'application. Et après, je me suis dit, ça pourrait servir, voilà, si on développe une propre application, moi qui suis à la DAN, pourquoi pas proposer cette application en téléchargement au lieu de prendre des applis avec de la pub, des données qui partent à droite, à gauche. Donc voilà, c'était aussi ça l'idée.
Ok, très bien.
Voilà, je mettrai, si vous voulez, où j'en suis, je mettrai les deux petits fichiers APK pour ceux qui veulent la télécharger et faire des retours pour me dire.
Chouette!
Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Excuse-moi, Jeff, je fais juste un petit retour. Moi, je me suis amusé avec LightApp, dont nous a parlé Guy.
Oui, LightApp, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, très web sympa. App, tout à fait. Très sympa aussi. Hein. Allez, pour parler d'autre chose?
Pour parler d'autre chose, allez-y. Bon, j'ai pas mis un truc.
Je vais commencer le temps que vous mettiez quelque chose.
Non, mais oui, moi, j'ai rien mis. Je n'ai pas mis.
Voilà. Alors, récemment, enfin cet été, Amazon a connu un joli succès avec sa série The Boys. Il faut savoir que c'est une série avec des super-héros, mais comment dirais-je, ils ne sont pas très, très gentils, les super-héros, on va dire, dans la série. Ah, si vous avez vu les affiches dont a placardé Amazon quasiment toutes les villes de France et de Navarre, vous avez compris que les super-héros en question sont un peu éloignés du stéréotype bonbon qu'on connaît. En gros, c'est un pastiche de l'univers de Batman et Superman que l'on a. Hein. Vous avez un pseudo Superman, vous avez une pseudo Wonder Woman, etc. Ceux qui connaissent ne s'y tromperont pas. Donc, j'ai regardé ça cet été avec un œil très peu convaincu, parce que pour moi, ça allait être une plantade complète connaissant la BD. Qui est trash, parce que derrière la BD, on a Garcenis, c'est Monsieur Preacher, par exemple, et c'est tout sauf gentil, on va dire. J'ai été super, super surpris, ça a été un truc sur lequel j'ai vraiment accroché, et du coup, là, en ce moment, je me relis la BD, Et oh mon Dieu, j'avais oublié à quel point c'était trash aussi. C'est trash, mais c'est lourd aussi. Voilà, là, on va dire que ce que j'ai bien aimé dans la série, qui est une trahison qui est très sympathique de la bande dessinée, c'est qu'ils ont réussi à mettre de la subtilité, même si à certains moments, on a l'impression que c'est horrible, etc. Bon, et l'acteur qui est soi-disant français, c'est assez amusant aussi. Mais bon, passons là-dessus. Très bonne série, j'ai trouvé. Et la BD, bah écoutez, si vous trouvez que la série était trop édulcorée, vous pouvez passer à la BD, elle est éditée en entier. Mais bon, jetez un coup d'œil dedans, c'est un style, c'est un ton, voilà. Bah, c'est Garcenis, voilà, il faut connaître le monsieur.
Voilà, on ira voir. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je vais vous parler de deux choses avant que mon ordi ne tombe en panne de batterie. Je voulais vous parler en fait d'un film qui a été fait, produit, même réalisé, je crois, par Peter Jackson, qui a été produit dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, donc qui est sorti déjà l'année dernière, mais qui là est ressorti dans le cadre des dispositifs collège au cinéma, et qui s'appelle en français Pour les soldats tombés, en anglais They Shall Not Grow Old, et qui en fait, si vous connaissez Apocalypse, la série française à partir des images restaurées sur la voix de Mathieu Kassovitz, c'est un petit peu la même idée, sauf à partir d'images d'abord de la Première Guerre, hein, recolorisées, retraitées, et uniquement des images du côté anglais cette fois. Donc principalement, forcément, les combats de la Somme. Franchement, alors moi j'ai une petite passion secrète pour, pas pour la guerre, hein, mais pour les documents de guerre. Il y a quelque chose que je trouve assez fascinant, en fait, surtout à une époque où, quand moi j'ai appris la Première Guerre mondiale, quand on m'en a parlé, il n'y avait pas de vidéo. Enfin, ces vidéos n'étaient pas. Je ne peux pas vous dire, mais Jeff est en train d'écrire en même temps des conneries sur le document collaboratif, alors que je parle d'un truc super sérieux.
Super, ok.
Voilà.
Je demandais aussi, forcément.
Je vais reprendre. Donc,
vas-y, courage.
À cette époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait pas vraiment de documents, quoi. Là, maintenant, avec la technologie, ils ont pu restaurer des images, les coloriser en plus. Je trouve que ça donne quand même toute une autre dimension à cet horrible événement. Et ils continuent à mettre n'importe quoi. Bien. La deuxième chose.
Et franchement, le côté colorisé de certaines images, ça les rapproche de nous. Bah, ça les fait rentrer dans notre sphère de. Comme quoi on peut les imaginer, parce qu'après c'est sûr, c'est vrai ce que tu dis, c'est quand nous on nous en a parlé, c'était quelques images sur un bouquin, etc. On n'avait pas un accès aussi facile et proche.
Mais clairement, et puis moi voilà. Je me rappelle qu'on avait des images de la Seconde Guerre mondiale, par définition, beaucoup plus nombreuses. On discutait en famille ou voilà, compagnie. Même mon père me disait, mais tu te rends pas compte, la Première Guerre mondiale, c'est encore pire. Et ça ne nous parlait pas parce qu'on avait que des images fixes, des choses qui, par rapport aux images vivantes qu'on avait de la Seconde, avec clairement. Voilà. Et à partir du moment où il y a eu ces premières images de la Première, notamment avec Apocalypse d'abord, vraiment moi je me suis dit ah ouais quand même il y avait des trucs qui étaient encore plus marquants, et là ce film vous verrez, donc ça dure quand même plus d'une heure, hein, c'est assez long, 1h40 même, et du coup des images qu'on n'a jamais vues, et voilà, ça vaut le coup. Et la deuxième chose, puisque Jeff
tu as dit où on pouvait le voir, celui-là on peut le trouver,
sur Imul, trouver sur il passe encore au cinéma en fait dans certaines rediffs, je crois qu'il est, si mais j'ai une connerie, il est sorti en DVD, si il est en DVD, ou en DVD, et peut-être même sur de la VOD, et puis je sais plus si j'en ai parlé la dernière fois non plus, mais la saison 5 de Peaky Blinders,
c'est vrai, moi j'avais décroché moi.
Ah bah moi j'ai jamais décroché,
j'ai décroché la troisième saison. Ouais.
Et là la saison 5 arrive sur Netflix France la semaine prochaine, moi j'ai eu la chance de la voir en Angleterre, enfin en version originale. Et franchement c'est super, enfin, c'est une des meilleures, vraiment.
Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais.
Tous les ingrédients retrouvés.
Non, au milieu de la saison 3 j'avais abandonné moi.
Ouais, ça reste. La saison 3, c'était effectivement peut-être pas la plus. Il y avait une petite baisse de régime, mais là, la saison 5 repart plus belle, puisque ça, il y a plus de politique au milieu. Enfin, c'est. Puis bon, les acteurs, c'est quand même un des acteurs de ces années. Je veux dire, on en parlera certainement dans le futur. Voilà. Eh ben, très bien.
Bon, moi, je fais rien en ce moment, donc on va passer directement à la fin.
Très bien, Jeff.
Super.
Fais gaffe de pas te casser quelque chose avec tout le sport que tu fais. Hein.
Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. sûr. Non, non, mais je prends soin de moi. T'inquiète.
J'espère bien. Je m'y compte bien. A priori, oui. Donc, hein, c'est bien, c'est très bien.
Allez, les gars. Bon, après cette heure d'émission bien, bien remplie, vous pouvez, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire quelques commentaires. Déjà, si au point de vue son, hein, déjà, si vous trouvez ça mieux ou pire, je sais pas. Donc, pour nous laisser des commentaires, vous avez plusieurs choix. Vous avez bien sûr notre site eTeachers.fr en dessous de l'émission. Vous avez nos Twitter eTeachers.fr. Vous avez Facebook. Vous pouvez, on a toujours iTunes. Hein, voilà, vous pouvez toujours laisser les commentaires et les étoiles sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Spotify si vous le souhaitez. Et puis voilà, et puis on a notre Twitter perso, les gars. Si on veut nous joindre directement, Seb.
Alors, Seb, c'est stuteur@stuteur.
Voilà, Guillaume.
J'allais dire Seb, c'est bien, mais ça devrait parler qu'à une certaine frange de. Bien, alors Guillaume, c'est ouais. @willow_teach.
Ok, moi. Donc, moi.
Et toi?
Eh bien, moi, c'est @jeff8342 pour si vous voulez nous contacter, voilà, directement.
8342, ouais. Rappelle-nous que ce sont les départements de cœur, mais rien à voir avec une éventuelle taille de pied ou de bras, ou n'est-ce pas, hein?
Je finis par me désolidariser là.
C'est en pouce. En plus, c'est en pouce. Hein.
Ah, c'est en pouce en plus.
Oh, il est parti.
Bien, bonne soirée.
Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. À dans 15 jours. Hein.
Allez.
Ciao.
Ciao.
Ciao.